Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement. Et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission, c'est-à-dire depuis 9h, 2 ou 3 ou 4. À suivre, Bruno Donnet pour ses télescopages. Notre invité sera le comédien Gérard Lanvin. On va parler de la comédie J'adore ce que vous faites. Ça sort demain. On va aussi parler de musique parce qu'il est en tournée. Il y a même un Olympia qui se prépare. Et puis Marc-Antoine Lebray et ses voix seront avec nous pour clore l'émission. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Philippe Vandel.
Caroline Speller, bonjour.
Bonjour Philippe.
Et je salue Bruno Donnet également dans ce studio.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous observez ici les mécaniques médiatiques. Et hier soir, vous avez donc suivi la passation de pouvoir entre Jean Castex et Élisabeth Borne. Et vous êtes demandé si ce que vous étiez en train de voir se déroulait bien en 2022.
Oui, et pour que vous compreniez bien, Philippe, ce que j'ai ressenti hier devant ma télé, il faut que je vous raconte par le menu comment les choses se sont déroulées. Alors au début, ça s'est bien passassé. Hein, Élisabeth Borne, première
comprendre.
Ministre, il faut du temps.
La passation, c'est bien passassé.
A eu une pensée, Élisabeth Borne, pour toutes les petites filles de notre pays.
Je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant, allez au bout de vos rêves. Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société.
Elle a évoqué la place des femmes dans notre société et ça m'a semblé une belle priorité. Et puis j'ai commencé à avoir un peu de mal pour toutes les petites filles de notre pays car j'ai entendu une expression épouvantable sur BFM TV.
Vous nous dites, Madame Borne coche toutes les cases.
Cocher des cases, la chaîne d'information en continu était en train de m'expliquer pourquoi Élisabeth Borne avait été choisie.
Et pourquoi stratégiquement c'est intéressant et pourquoi ça coche des cases.
En évoquant la seule stratégie et le nombre de cases à cocher. Bire. J'ai alors tendu l'oreille et j'ai réentendu la même expression sur TF1, cette fois en plein journal de 20h.
À 61 ans, Élisabeth Borne coche bon nombre de cases.
J'ai alors compris que la case principale qu'il convenait de cocher, Philippe, c'était la case femme, car tout était ici affaire de forme et d'affichage. J'ai trouvé les journalistes gonflés de tout renvoyer au pur calcul politique et surtout pas très originaux, car figurez-vous qu'ils ont tous eu la même idée, téléphoner à Edith Cresson. J'ai entendu la première femme Premier ministre sur TF1.
La France est le seul pays où on s'étonne qu'une femme soit Premier ministre.
Mais également sur toutes les chaînes d'infos comme sur BFM TV.
Nous sommes en ligne avec Madame Cresson justement.
Eh ben voilà.
Cresson. Bonsoir Madame Cresson.
Eh ben voilà, BFM TV qui a eu la particularité de lui téléphoner deux fois au cours de la même soirée.
On est en ligne avec Edith Cresson. Première femme à avoir été première ministre dans l'histoire de France.
Pour autant, pouvait-il faire autrement? Eh bien, c'est pas sûr. Car n'en déplaise à toutes les petites filles, dans notre pays, depuis plus de 30 ans, plus une seule femme n'avait été nommée à Matignon. Ensuite, j'ai écouté non plus les journalistes, mais bien les responsables politiques eux-mêmes. J'ai trouvé Jean Castex incroyablement paternaliste avec sa remplaçante. Qu'il n'a pas hésité à tutoyer dans une fausse coulitude sur le perron de Matignon, mais surtout à assurer de sa confiance, comme s'il y avait en la matière, un petit suspense hein, sur le fait qu'elle en soit digne.
J'ai confiance, chère Elisabeth. D'abord, permets-moi de te le dire en toi, car je te connais.
Enfin, j'ai entendu Élisabeth Borne reprendre une grande priorité qui n'était pas la sienne, mais celle d'un homme, le président de la République, qui l'a brandi pendant toute sa campagne, l'environnement.
Je pense notamment à la situation internationale, mais aussi aux défis climatiques et écologiques sur lesquels il faut agir plus vite et plus fort.
Et c'est ainsi que j'ai découvert par la voix du directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune, interrogé sur BFM TV, que tout compte fait, le rôle de Premier ministre n'était plus si important que ça, qu'il s'agissait désormais d'un poste d'exécutant. Est-ce que ça expliquait qu'on puisse le confier à une exécutante ? Même s'il y avait là-dedans une petite incongruité sémantique.
Aujourd'hui, on a tous noté que le pouvoir n'était plus à Matignon, et au moment où le pouvoir n'est plus à Matignon, on nomme une femme à Matignon. Et à ce moment-là, il faut s'extasier, on invente le terme de première ministre qui n'est pas conforme à la langue française, etc.
Ou la démonstration, Philippe, que même passé Élisabeth Borne, il reste encore des limites, et que toutes les petites filles de notre pays ont du pain sur la planche avant de pouvoir aller au bout de leurs rêves.
Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain, Nicolas Caro, je me tourne vers vous. Mm-hmm. Le programme de votre indispensable semaine matin aux alentours de 10h30, je me doute que c'est un roman.
Oui, ça s'appelle Le soldat Ulysse, c'est l'histoire d'un soldat amnésique.
Voilà, et il
concourt, la Première Guerre mondiale.
C'est le prix Europe 1 GMF.
Absolument.
Chaque jour, cette semaine, vous nous présentez un roman.
Exactement.
On verra qui sera le lauréat. Caroline Speller, qui a gagné aujourd'hui? C'est quoi votre indispensable?
Alors, à l'occasion du film Top Gun Maverick, je vous ai préparé une petite sélection de jeux vidéo pour se prendre pour le héros, justement Maverick, dans nos salons, manette en main, et c'est un film Europe 1.
Dans un instant, nous sommes avec Gérard Lanvin, on va parler du film J'adore ce que vous faites, ça sort demain, mais aussi l'entendre chanter d'abord duo avec Abdelmalik, issu de son dernier album dont on dira un mot ici-bas, Gérard Lanvin sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vandel.
Bonjour Gérard Lanvin.
Bonjour Philippe.
Ravi de vous accueillir dans ce studio. Filmographie impressionnante, les spécialistes marchent à l'ombre, camping et dans un genre différent, Le Prix du Danger et surtout Le Fils Préféré qui vous a offert le César du meilleur acteur en 1995, sans compter le César du meilleur second rôle en 2001 pour Le Goût des Autres. Deux Césars que vous n'êtes jamais allé chercher. J'ai fait volontairement une présentation un peu fan. Pourquoi ? Parce que c'est le sujet du film qui sort demain, dont vous êtes la tête d'affiche. J'adore ce que vous faites. C'est le titre du film, film de Philippe Guillard avec Artus. Et vous y incarnez Gérard Lanvin. Que lui arrive-t-il à ce Gérard Lanvin du film ? Ou est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est le même ?
Non, c'est pas le même, parce que, enfin, c'est pas le même. On se sert bien sûr de sa personnalité pour interpréter un Gérard Lanvin.
Ouais.
Le film, c'est un scénario, c'est écrit, il faut aller à la composition quand même, puisque les scènes, c'est pas moi qui les ai inventées. À partir de là, on voulait parler de la notoriété, de ses avantages et ses inconvénients. Donc, le mieux dans l'histoire qu'on connaît, nous, Philippe Guillard et moi, c'était de parler d'un acteur qui est supposé aller travailler sur la partie française d'un film américain, un tournage américain, dans le Gers. Voilà, alors on prend un acteur, je vais m'appeler Gérard Lanvin dans le film, parce que sinon ça voudrait rien dire, ça serait grotesque. Donc tu te sers un peu, évidemment, de tes fringues, de ta personnalité et de ce que les gens connaissent de toi.
Alors, il se pointe dans le Gers, que vous l'avez dit, et là, il croise la route de Momo. Qui est-il ?
Alors, à chaque fois qu'on travaille sur un film, les gens, pour vous faire plaisir, vous trouvent des baraques ou des endroits ou des hôtels, peu importe. Et là, il se trouve qu'on est dans le film américain, donc on est dans l'excès, déjà. On vous attend, on vous amène dans une maison qu'on vous a louée. Elle a 5 chambres, vous êtes tout seul, avec une piscine de 20 mètres que vous n'avez jamais le temps d'utiliser, parce qu'entre 6h du matin et 10h du soir où on rentre, on n'a pas le temps de se baigner. Et cette piscine tombe en panne. C'est-à-dire, et quand une piscine tombe en panne...
Elle est verdâtre.
Elle est verdâtre, elle n'est pas accueillante du tout, et il y a des odeurs assez nauséabondes. Et on m'envoie un piscinier pour la réparer. Très tôt le matin, le mec arrive à 7h. Déjà, c'est la preuve de son comportement très, très à l'aise. Il rentre là-dedans et voilà, il commence à travailler et me reconnaît. Et ensuite, on voit un film qui dure 1h30 avec un attachant.
Comment ça se passe quand Momo, le pisciniste, arrive chez vous et vous reconnaît ? Ça se passe comme ça.
C'est dingue. Bon, on a déjà dû vous le dire, mais vous ressemblez à Gérard Lanvin. En plus petit, évidemment, mais c'est fou, ça.
Bon, en tout cas, vous inquiétez pas, dans 2 heures, hop, c'est réglé.
C'est sûr, hein, parce que sinon, on change de maison, moi.
Non, non, vous inquiétez pas, ça va être... Mais pourquoi vous voulez changer de maison ? C'est pas chez vous, ici ?
Non, non, on me la loue, c'est pour le travail que je suis ici, moi.
D'accord. Et vous... Vous travaillez dans quel domaine ? Si c'est pas...
Je suis dans le cinéma.
Le cinéma, d'accord. Et plutôt en technique ou en production
Non, artistique.
Artistique, d'accord. Vous êtes acteur.
Ouais, Gérard Lanvin, plus petit, oui.
Mais non ! Mais c'est dingue ! C'est vous, vous êtes Gérard Lanvin, quoi. Enchanté, Momo.
Momo, c'est Artus.
Un magnifique Artus.
On vous l'a déjà dit, Gérard, on vous ressemble à Gérard Lanvin, plus petit.
Non, on m'a dit que je ressemblais... Vous êtes Richard Berry, c'est ça ? Souvent, à l'époque.
C'est un film sur la notoriété, ça part d'une histoire vraie. Vous étiez justement un jour avec le réalisateur Philippe Guillard à la sortie d'un stade de rugby il y a quelques années. Racontez ce qui vous est arrivé.
Alors, on était au Stade de France pour voir un tournoi Destination. Philippe étant encore sur Canal, il devait commenter une émission derrière et m'a dit « Écoute, essaye de rentrer parce que là je suis occupé. » Donc je pars du stade avec 90 000 personnes heureuses et surexcitées bien sûr. Et je m'aperçois qu'au Stade de France, il n'y a aucun moyen, à part le RER, de rentrer chez toi. Donc, je me dis, bien, je ne vais pas monter dans le RER avec autant de monde, parce que là, ça aurait été compliqué. Je vais rentrer à Pince, et je me mets le moral en forme, et je commence ma marche, et je vois un quart de flic, et un flic me reconnaît, il me fait « Ah, monsieur Lanvin, bonjour, ça va bien ?» Alors, je lui dis « Vous ne connaissez pas une station de taxi dans le quartier ?» Il m'a dit « Non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. » Par contre, je peux vous arrêter une voiture si vous allez sur Paris, c'est ça ? Je dis, bah oui, mais non, on ne va pas arrêter une voiture. Laissez-moi faire. Monsieur, il arrête une première voiture qui ne va pas sur Paris, une deuxième, troisième, quatrième, et une cinquième voiture arrive, c'est une 504. Donc déjà, il se penche à la portière, il fait, bonjour, Alors, on entend une petite voix faire « Oui, bonjour, qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Est-ce que vous pouvez ramener ce monsieur sur la porte de la chapelle ?» Donc, le môme me fait « Bah, ouais, pas de problème. » Et puis, je monte dans la voiture, il ne m'avait pas vu, je me mets entre les deux sièges, il y avait ces deux petites casquettes à l'envers, très sympathiques, tu vois. Et je lui dis si tu vas à la porte de la chapelle, tu me laisses porte de la chapelle, je te remercie mille fois, il n'y a pas de problème. Après, je me débrouillerai, il me fait « Ouais, il n'y a pas de problème, hein, monsieur. » Et il regarde dans le rétroviseur et il me voit, il me fait « Putain, moi, putain, c'est Moltes !» Moltes étant le personnage que je joue dans Le Boulet aux côtés, ouais, de Benoît Poulvorde. Et l'autre se retourne aussi, il fait « Putain, c'est Moltes !» Ils ont appelé leurs potes qui, eux, « Tu sais avec qui on est dans la voiture? On est avec Moltes !» Et les mecs lui disent « Mais arrête, t'es un mytho, toi t'as toujours été mytho !» Finalement, ils ont été obligés de leur prouver, ouais. Ils m'ont amené avec eux dans leur quartier. Et ça a duré un peu plus de 20 minutes, quoi.
Voilà, et donc vous avez mis un temps fou, et c'est le fan envahissant, mais ils ont été sympathiques.
Ah mais, de toute façon, ils étaient adorables. Parce que moi, en fait, j'ai beaucoup d'amitié avec eux. C'est des gens qui aiment les films dont on fait partie et puis qui sont agréables et gentils. Mmh. Après, il faut prendre le temps. Il faut avoir le temps.
Voilà, il est gentil, mais il est trop gentil. Ça s'appelle « J'adore ce que vous faites ». On est avec Gérard Lanvin. On continue d'en parler. Culture Média continue sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
J'adore ce que vous faites, c'est le titre du film de Philippe Guillard avec Artus et avec surtout Gérard Lanvin, ça sort demain. Gérard Lanvin qui incarne Gérard Lanvin, justement. Vous êtes sur un tournage, je vous raconte le film à qui prendrait l'émission en cours de route. Et il y a un type qui est là, qui s'incruste. Il s'incruste d'abord pour venir réparer votre piscine, et après il s'incruste sur le tournage. Vous ne savez plus comment faire pour vous en débarrasser. Et vous êtes à un moment donné obligé de lui dire ces quatre vérités.
Non, Momo, si je suis énervé, c'est beaucoup, beaucoup par rapport à vous. Voilà.
À cause de moi ? Mmh. Bah, je tombe de haut, j'ai l'impression d'être hyper discret. De
rien. Mais non, vous n'êtes pas discret. Chaque fois que je fais un pas, vous êtes là. Moi, ça fait quoi, 3 jours qu'on se connaît ? J'ai l'impression que ça fait 20 piges qu'on vit ensemble.
Bah, pareil, c'est dingue, hein ? C'est fou comme ça.
Bon, Momo, j'ai été gentil jusqu'à présent. Vous reconnaissez, j'ai été gentil.
Oui, je reconnais.
Alors, à partir de maintenant, plus de Momo. Ni sur le tournage, ni dans la maison, ni dans la piscine, ni dans le compteur électrique. Nulle part. Pigé ?
Pigé ? D'accord. Bon ben... Adieu, Gérard.
Ça vous fait marrer, même, ouais, comme spectateur, il est fatigant. Quand on le voit, on a envie de le sortir du film. En même temps, c'est tout le sel du film, c'est évident qu'il soit là. Vous avez déjà rencontré des fans collants à ce point, pour ne pas dire casse-bonbon à ce point ?
Non, pas vraiment, non, non. Moi, les fans, si tu veux, ont compris mon attitude. C'est-à-dire, j'ai jamais été dans des médias, jamais été surexposé, parce que je l'ai refusé au départ. Et ils ont, au fur et à mesure, parce que maintenant, on a du terrain, ils ont compris que t'aimais être plutôt tranquille que surexposé, quoi, voilà. Donc, avec moi, ils agissent heureux. C'est l'histoire d'un selfie, c'est l'histoire d'un autographe, c'est l'histoire d'une photo signée, mais ça reste dans la sympathie et dans la bonne vibration, quoi.
Et des réalisateurs aussi dingos, ce Québécois, je vais le citer, il s'appelle Antoine Bertrand, ah ouais, je ne le connaissais pas, il joue, ouais, Bob Martel. Ça devait être un réal, finalement, on vous change le réalisateur au dernier moment. Déjà, ça vous déplaît en tant que comédien. Les changements de dernière minute, ça vous déplaît?
Évidemment, parce que moi, ça m'est arrivé sur San Antonio avec Claude Berry comme producteur. Il a changé de metteur en scène 10 jours après le début. Et c'est perturbant parce que tu as travaillé avec l'autre metteur en scène en amont. Mmh. Donc tout d'un coup, on t'amène quelqu'un dont tu ne connais pas grand-chose finalement et avec qui il va falloir continuer le film, mais d'une autre manière. Donc ça, c'est assez perturbant parce que tu n'as plus le rapport que tu avais avec une préparation qui peut durer un mois avant.
Je ne connaissais pas cette histoire. Le réalisateur a changé pour des raisons artistiques ou parce qu'il y avait un souci de santé?
Parce que
Berry n'était pas content de la manière dont c'était tourné.
Il a foutu tous les rushs à la poubelle. De 10 jours de tournage quand même. C'est pour ça que c'était le film le plus cher du cinéma français, parce qu'il a fallu payer l'ancien casting en plus, parce qu'il y avait autour de moi une équipe, mais elle lui plaisait plus, il a fallu tout changer.
Incroyable.
Et là, c'est assez perturbant, je t'avoue. Ouais.
Alors, vous dites qu'il y a un cliché qui n'existe plus, les comédiens, il n'y a plus le fauteuil avec le nom dessus.
Non, il n'y a plus le fauteuil avec le nom dessus, c'est assez rare maintenant, mais si tu veux, il n'y a même plus de tabagie, il n'y a plus rien au cinéma, il n'y a plus une thune.
C'est pas vrai. Même dans les gros films français, films français, maintenant les gros films, c'est Netflix et c'est les plateformes.
Absolument, c'est ça. Non, il n'y a plus d'oseille, hein, même dans le cinéma. C'est assez compliqué de faire un film avec des moyens suffisants pour qu'il y ait du spectacle.
Des gros tournages. Vous avez beaucoup attendu sur ce tournage ?
On attend toujours. Tu sais, il y a une réflexion qui se passe dans le cinéma, c'est entre moteur et action, il y a une saison. Tu vois, voilà. Non, ben voilà, donc c'est la réalité. Ne te lève pas. On est prêt, on va la faire. C'est pas la peine de te lever. Ça va durer encore une petite demi-heure.
Ce que vous avez dit, que vous aviez plutôt envie d'aller vers des unitaires télé, vous dites 22 jours de tournage, c'est plein pot. Ouais. Au cinéma, c'est 2 mois, on perd trop de temps à attendre.
Oui, voilà, absolument. Moi, j'ai trouvé avec la télé et les unitaires télé une vraie bonne raison d'aller bosser, quoi. Le matin, tu te lèves à 6. Mais tu bosses, quoi. Et moi, j'aime bien ça. Pas perdre de temps à attendre sur une chaise et à finalement te fatiguer d'être là, quoi.
Les puristes du cinéma qui nous écoutent, et il y en a beaucoup, ils n'ont pas tort de nous écouter, et vont dire, oui, mais c'est pas la même qualité, c'est pas la même image, c'est pas le même recul. Vous pensez quoi de ces critiques ?
Je pense qu'ils ont tort, parce que maintenant, il y a beaucoup de qualité dans les tournages d'unitaires, et surtout des histoires et des rôles qu'on n'a pas au cinéma, qu'on t'offre pas au cinéma. Tu vois, l'affaire de... On a fait avec Mathilde Seigné Les Justes.
Oui, les vous enfants étiez venu en parler, justement.
Voilà, on est venu en parler avec Fabien. On a fait plus de 5 millions d'audimat, ce qui est beaucoup, mais parce que le produit était intéressant, le rôle était intéressant, le couple était intéressant, donc c'est comme au cinéma, sauf qu'on y va davantage quand on travaille, on prend... moins de on n'a pas le temps, donc il faut aller bosser, il faut arriver archi prêt, et c'est moi ça m'intéresse davantage de travailler comme ça.
Fabien, c'est Fabien Otoniente qui était venu avec vous sur ce plateau. On va continuer de parler avec vous, Gérard Lanvin. On va aussi parler de musique, ça sera en toute dernière partie. D'abord, on va parler de littérature, on va parler de jeux vidéo, on va parler de Top Gun. Alors tiens, si un film qui a des moyens, eux ils ont des moyens,
ouais,
à la preuve.
Un petit peu.
Ils font même des jeux vidéo dérivés, alors qu'il n'y a pas ça avec d'autres films que je vais ne pas citer ici. Culture Média continue.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
J'aime beaucoup ce que vous faites, film de Philippe Guillard avec Gérard Lanvin qui joue son propre rôle de Gérard Lanvin avec un fan extrêmement envahissant, tellement gentil qu'à la fin on a envie de le baffer. Et encore, je suis poli. Qu'est-ce que ce Gérard Lanvin a de vous et n'a pas de vous ?
Il n'a pas de moi, en tout cas, la patience à ce point-là. Tu vois ?
Ouais.
Maintenant, ce qu'il a de moi, c'est l'attachement qu'on peut avoir quand on fréquente quelqu'un et qu'on lui trouve des qualités humaines suffisantes pour se dire, bon, c'est un casse-couille, mais c'est un mec propre, c'est un mec bien, voilà, c'est la chose qui peut éventuellement ressembler à ce personnage.
Et vous-même, puisque c'est le sujet du film, quel rapport vous entretenez avec la notoriété ?
Sans problème. Moi, si tu veux, j'ai pas de rapport forcément avec la notoriété dans la mesure où je ne la joue pas. Donc les gens ont bien compris ma manière d'être, je ne me surexpose pas, je n'ai pas besoin d'aller raconter mes coliques chez Michel Simès, tu vois, donc il y a un moment où on me fout la paix, tout le monde est très gentil, très agréable avec moi, c'est en fait une vie agréable, cette notoriété que moi j'ai par rapport à la manière dont je la vis.
Vous habitez une partie de l'année au Maroc, c'est bien
ça ? Ouais.
C'est pour être moins connu, pour être tranquille à la boulangerie, parce que ça fait penser à Johnny Hallyday qui allait à Los Angeles parce qu'il ne pouvait même pas descendre boire une bière en terrasse en France.
Oui, mais je ne suis pas Johnny Hallyday ou aussi connu que lui. Le problème...
Non, c'est quelque chose.
Non, mais au Maroc, ils me connaissent. Mm-hmm. Mais bon, c'est de l'amitié. Moi, j'y suis parce que j'aime le soleil. Je suis un mec du Sud. Bon, il est temps, à mon âge, d'aller vers un climat beaucoup plus doux que celui d'ici.
Donc, j'adore ce que vous faites. Vous formez un duo avec Artus. Le duo... C'est récurrent dans votre carrière, il y avait avec Poulvord dans Le Boulet, avec Junio dans Envoyés très spéciaux, avec Bernard Giraudot dans Les Spécialistes. C'est vous qui recherchez ces types de rôles parce que ça vous plaît, ontologiquement, si je vais employer un mot savant, ou est-ce que c'est comme ça, on vous propose ces rôles-là ?
Non, on m'en propose, évidemment. Et alors, il y a des bonnes et des mauvaises idées, mais en général, avec Philippe Guillard, c'est toujours des idées qui me font marrer. Et puis, on vit en groupe, on vit dans la même maison tous, donc c'est un moment de vie que je choisis pour être heureux déjà. Et puis,
parce qu'il y a côté film de potes.
Ah oui, avec Philippe, oui. Et puis les autres, Michel Blanc, même Villeray dans Les Frères Pétard.
Ah oui, j'ai oublié.
Non, c'est des idées qui viennent des producteurs et ils nous appellent pour ou les conclure ou pas.
Vous êtes un grand lecteur ?
Pas du tout, pas du tout. Non, moi je lis pas mal de scénarios de merde, donc à un moment... Si tu veux, ça fatigue de lire, tu vois. Donc, je préfère regarder des images.
Je colorier. Pas celle-là. Je vais parler de littérature avec vous, Nicolas Caro. Ce matin, vous continuez votre marathon de la semaine. C'est le prix Europe 1 GMF qui va être décerné le 9 juin. Chaque jour, vous présentez l'un des 5 romans sélectionnés. Hier, c'était celui de Jeanne Benhamer. Aujourd'hui ?
Alors, rien à voir. Hier, on parlait effectivement douceur et méditation. Ce matin, c'est plutôt la guerre. Ça s'appelle Le soldat Ulysse chez Gallimard, signé Antoine Billot. Enfin, la guerre, c'est juste après. Nous sommes en 1919, dans une gare de Paris. On retrouve un type complètement perdu, un soldat. Il est amnésique. Bon, il a sans doute subi un choc pendant les combats, sans doute. Mmh. Mais en attendant, que faire de lui? Il n'est personne. Il est comme suspendu et sans ressources, puisque donc il ne sait pas qui il est, ni où il habite, ni rien. Par ailleurs, il ne peut pas recevoir de pension, puisqu'on ne connaît pas son identité.
Et donc le roman, c'est la quête de ses souvenirs.
Exactement. Il est pris en charge par le médecin-chef de la Pitié-Salpêtrière. D'ailleurs, on a la copie du rapport du médecin. Et parce qu'il faut bien lui donner un nom, il le baptise le soldat Ulysse. Et on l'aide à retrouver sa mémoire. Et pour ça, le mieux, ce serait de trouver l'un de ses proches. Alors on le prend en photo et on publie dans les journaux, dans les mairies, les postes, etc. comme un avis de recherche.
Pour que quelqu'un le reconnaisse.
Voilà, le problème c'est qu'il y a trop de réponses, des centaines de milliers, des gens qui certifient qu'il est bien leur mari, leur frère, leur ami, etc. Pas forcément par malhonnêteté, parce qu'on pourrait se dire qu'ils veulent toucher la pension. Non, beaucoup sont sincères et peut-être qu'au fond, ils voudraient que ce soit lui, parce qu'il n'arrive pas à tourner la page de la guerre. Mais ça ne règle pas le problème d'Ulysse qui part donc pour une odyssée. Comme son homonyme mythologique, pour retrouver son nom, c'est-à-dire là d'où il vient. C'est très beau, c'est à la fois prenant et raconté dans un style poétique.
C'est une fable plutôt.
C'est un conte, ouais, si on veut.
Voilà, et ça rappelle le baiser de l'hôtel de ville, où vous voyez ces passants qui s'embrassent devant l'hôtel de ville.
Et
il y a, je crois, il y a une dizaine de couples qui ont dit « c'est moi qui ai fait cette photo avec Robert Donneau ». Et comme Robert Donneau n'est plus là, bah, il ne peut plus dire. Et d'ailleurs, lui-même ne se souvient plus. Je ne vous demande pas si ça vous tentait. Peut-être ça fera un scénario. Peut-être vous jouerez dedans, Gérard Lanvin. On verra bien.
On ne sait pas.
Le soldat
Ulysse. Roman, c'est 100 fois mieux à lire qu'un scénario. Attends. C'est fait pour être lu, un roman.
Tu vas dans ton univers à toi, tu crées tes décors. Bien sûr, c'est intéressant.
Et tu crées la tronche d'Ulysse. C'est sélectionné pour le prix Europe 1 GMF. On verra bien, ça sera le 9 juin qui l'emportera. On parlait de jeux vidéo. A tout de suite dans Culture Média.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Allez !
L'événement Top Gun Maverick est sur Europe 1.
Sérieux ? C'est que l'échauffement.
Caroline Speller, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour.
Le son de son avion. Pourquoi on entend le son de Top Gun, Gérard Lanvin? Parce que demain, Tom Cruise va monter les marches du Festival de Cannes pour l'avant-première Top Gun Maverick, film européen, on l'a dit. Et Caroline, vous nous proposez de nous la jouer comme Maverick, le héros de Top Gun, mais évidemment en jeu vidéo.
Oui, et le 25 mai, la suite du film Top Gun revient au cinéma 36 ans plus tard. Et l'histoire du pilote prodige Pete Mitchell, alias Maverick, qui rentre à Top Gun, l'école de l'aéronavale américaine, est devenu culte pour beaucoup d'adolescents, un peu comme moi. Maverick, c'est le genre tête brûlée qui dégouline de testostérone, mais ce qui l'anime, c'est l'ivresse de la vitesse. Et pour un pilote, ça passe forcément par les airs. Alors, vous avez peut-être reconnu ce thème du film Top Gun.
Oh, je m'en doutais un peu.
Oui, quand même, oui, c'est sûr que c'est...
Je me suis dit, ça va pas être Blanche-Neige.
Non, donc, voilà. C'est sûr, Philippe, vous avez raison. Ouais. Qui nous renvoie tout de suite aux scènes aériennes spectaculaires des films. Eh bien, dans les jeux vidéo, on peut aussi les revivre. Pour le côté combat aérien, il y a par exemple l'incontournable Ace Combat, une licence qui existe depuis 1993. Le dernier jeu sorti, c'est Ace Combat 7, Skies Unknown, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Bon, je vous prévient, à part les avions de chasse modélisés en 3D, rien n'est vraiment réaliste. Le mot d'ordre, c'est le combat dans les airs façon super production hollywoodienne, à bord de MiG, Rafale ou F-16. Nous sommes parachutés au cœur d'une guerre fictive dans un escadron suicide. Notre but, jouer du manche comme Maverick, abuser de la mitraillette et des missiles pour survivre et arracher évidemment la victoire.
Bon, en fait, vous ne le reconnaissez pas parce que vous dites que c'est pas réaliste. Est-ce qu'il y a des jeux qui sont plus fidèles à la sensation de pilotage?
Alors oui, Philippe, et la référence en matière de simulation de vol, c'est Microsoft Flight Simulator, disponible sur PC et les consoles Xbox, et qui nous offre la Terre comme espace aérien, à bord d'avions allant de petits planeurs aux grands avions de ligne.
Et ça, j'ai vu, c'est les gens qui s'amusent à faire décoller des Airbus.
Ah oui, mais
rien à voir avec la guerre.
Non, non, vraiment, c'est de la simulation pure et dure de vol. Tout est basé sur les images satellites et photos 3D du service de cartographie BingeCart, en gros un Google Maps. On survole 2 millions de villes, des montagnes, des mers. La météo est même connecté en temps réel, donc si vous voulez passer sous la tour Eiffel sous un soleil radieux, eh ben c'est possible.
Et alors, est-ce qu'on peut piloter des avions de chasse, que c'est notre sujet aujourd'hui, comme ceux de Top Gun?
Oui, on peut, Philippe. Pour la sortie du film Top Gun Maverick, une mise à jour gratuite du jeu est proposée pour piloter les avions de chasse des films comme le F-14 Tomcat, et le F-18, de décoller et atterrir sur des porte-avions. Alors quand on entend Danger Zone, extrait de la bande originale de Top Gun, on voit des avions de chasse, mais aussi Tom Cruise avec son aviateur, cheveux au vent, chevauchant sa moto. Car Top Gun, ce ne sont pas que des avions, mais aussi des motos. Et en la matière, Philippe, ça je pense que ça va vous intéresser, il y a le jeu vidéo officiel du championnat du monde de moto, MotoGP.
Ah oui.
Et comme les jeux de foot, c'est un jeu par an.
Évidemment.
Évidemment. Et comme c'est une compétition reine, c'est un peu comme la F1 pour l'automobile. Mmh. La version 2022 propose les 21 circuits du calendrier, comme l'Osai, circuit au milieu du désert au Qatar, et encore la piste historique hollandaise à Assen. Il y a évidemment toutes les écuries et les pilotes pour participer au Grand Prix, monter sa propre écurie. MotoGP 22 est disponible sur toutes les consoles, Microsoft Flight Simulator sur PC, Xbox et Ace Combat sur PC, PS4 et Xbox One.
Ça fait beaucoup de consoles. C'est pas cette semaine que Jarlan va s'acheter une console pour jouer aux jeux vidéo, non ?
Non, je suis un peu perdu là dans les...
Ouais, vous êtes réfractaire à ça. Mais Top Gun, vous ne l'avez pas vu encore. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire.
Top
le
Gun,
nouveau,
non.
C'est qu'il n'y a pas de trucage, ou plutôt ce sont les comédiens qui pilotent réellement les avions.
Sans blague.
Ouais.
Ah ouais.
4 mois ou 5 mois de formation.
3
pour
mois
Tom
de formation.
Mais
et
c'est bizarre parce
acteurs.
Que j'ai largement du mal à y croire.
Si, il y a vraiment des caméras embarquées en fait dans les avions de chasse. Et
oui, on peut tout supposer. Avec cette technologie, ces effets spéciaux, etc. Parce que de confier un F-18 à Tom Cruise. Ouais, même avec 3 mois de formation, tu vois, j'y crois pas trop.
Ouais.
Mais bon, ça, c'est mon problème à moi.
L'étape d'après, c'est Depardieu dans un planeur.
Voilà, c'est ça. Si l'avion plane.
Je n'osais pas le dire, Charles, on va rester avec nous. Ouais. C'est la dernière ligne droite de Culture Média sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Nous sommes en compagnie de Gérard Lanvin. J'adore ce que vous faites. C'est le titre du film. J'adore aussi ce que vous faites. C'est le titre du film de Philippe Guillard avec Artus. C'est une phrase de fan et on peut dire qu'on est ici fan de Gérard Lanvin. On l'a dit, on va parler de musique. Vous êtes reparti en tournée avec votre groupe.
Oui.
Ça va redémarrer.
Ça va redémarrer. Là, on fait l'Olympia le 27 mai. Et après, c'est les festivals de blues. On a Morzine, on a les Francopholies, on a
Cognac
Blues Festival. Bon, il y a pas mal de trajets.
Alors, c'est pas qu'une lubie de comédien. Je vais raconter l'histoire. Vous étiez venu en parler il y a 2 ans. Vous avez sorti un album ici-bas, déjà vendu à 30 000 exemplaires. Donc, il est en route pour le disque d'or.
Oui.
C'était né pendant le confinement. Vous aviez des textes. Votre fils Manu avait des musiques.
Voilà, le confinement a créé l'histoire, en fait, parce qu'au lieu de perdre du temps, on a essayé d'en gagner, puisque Manu fait beaucoup de tournées, il est très occupé, moi, des films. On n'aurait jamais eu la possibilité de faire ça. Il m'a appelé, j'avais des notes dans des cahiers, il le connaît, ce cahier, depuis petit, il le voit, je note beaucoup de choses. Et donc, il m'a dit, amène tes cahiers, moi, j'ai 10 musiques, on va essayer de se faire un truc. Et j'ai suivi, évidemment, Manu, mon fils, mais surtout l'artiste qu'il est et qui m'impressionne.
Voilà, c'est du rock, du blues, grap, rock'n'roll,
ouais.
Un peu fin de soirée comme on aime.
Voilà.
On a entendu un duo avec Abdelmalik. Mmh. Vous m'avez dit que vous avez enregistré des nouveaux titres. Il y a un duo avec Dani, la
Dani,
chanteuse
ouais.
Dani, qui a
oui,
fait comme
bien
un boomerang
sûr.
Avec Dao.
Voilà, tout à fait. Donc Dani, elle fait partie de la famille. Hein. Dani, ça fait 40 ans que je la connais. On s'est connus. C'est de ça dont je parle. On s'est connus dans un monde qui était meilleur, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus heureux. Donc voilà, on parle du temps qui passe.
Il y a un titre très fort sur l'album. Pourquoi je voudrais qu'on en entende quelques notes et quelques mots? C'est parce que c'est en plein dans l'actualité. La chanson s'appelle « Entre le dire et le faire ». Ça parle de politique. On va entendre le 3e couplet.
Sur la plus haute marche, ils ont mis le gamin. La maîtresse lui a dit « Sois beau tes dessins. Regarde bien dans les yeux quand tu serreras des mains. Toi le roi du prompteur au sourire d'un fumeur. Assieds-toi à ta place, on ne te fera pas lever. Retourne voir ta maîtresse, elle saura t'expliquer. Entre le dire et le faire. Au milieu, il y a la mer. Les petits coffres pourront jamais voler comme les aigles.
Ça s'appelle entre le dire et le faire. On voit bien la dichotomie en ce que disent les politiques pour se faire élire et ce qu'ils font ensuite. Oui. Le roi du prompteur au sourire d'un fumeur, c'est le 3e couplet. On comprend bien qu'il s'agit d'Emmanuel Macron. Sa réélection, ça vous inspire quoi ?
Ça m'a fait changer mon 3e couplet.
Ah oui ?
Ouais, j'ai été obligé, vu les circonstances. Donc, sur la plus haute marche, c'est Rassis le lutin. Apte à promettre, apte à oublier. Voilà, enfin, on verra la suite. Hein. Je la chante maintenant avec ce troisième couplet transformé.
Alors, pour dire, c'est pas seulement une chanson anti-Macron, parce que vous disiez sur Sarkozy, c'est le premier couplet, l'agité du Karcher, se remarier, c'est tout ce qu'il a su faire. Mmh. Et sur François Hollande, l'autre au regard ahuri, qui se fait appeler Flamby, démasqué en scooter pour rejoindre sa blonde, il prenait bien la flotte en se prenant pour James Bond. Qu'attendez-vous, c'est important, qu'attendez-vous, non pas de ce gouvernement, je ne poserai pas la question, ce serait trop long, mais du prochain ou de la prochaine ministre de la Culture en tant qu'artiste, Gérard Lanvin.
Bah, qu'elle fasse un peu mieux que celle qu'on a jusqu'à présent, là. On ne voit pas, on n'a pas entendu.
Pendant le confinement, voilà, les artistes français, je vais me faire l'avocat de l'exécutif français, les artistes français ont vraiment été aidés et on a été un des rares pays au monde où il y a eu des salaires qui ont été versés. C'est Roselyne Bachelot qui était la dernière ministre, qui est la dernière ministre, toujours en exercice. Mm-hmm. Vous trouvez que ce n'est pas assez?
Ah non, bah moi je trouve rien du tout. Hein. Moi je n'ai pas touché une thune. Moi je ne me permets pas ça. Il faut aider ceux qui ont moins de chance. Et ça, je le pense réellement. Donc moi, je n'ai jamais touché un rond de quoi que ce soit.
Volontairement.
Par déontologie, oui. Volontairement.
Ne pas vous inscrire au chômage, parce
absolument
qu'il faut dire qu'il y a un système
assez
très
impossible.
Favorable. Les intermittents du spectacle est très, très, très favorable aux comédiens. Système que le monde entier nous envie, il faut le
bien
dire.
Bien sûr. Non, moi, je ne me suis pas autorisé à avoir cette démarche, parce que beaucoup d'entre nous ne travaillent pas. Moi, j'ai la chance de pouvoir travailler suffisamment pour ne pas aller profiter de ces choses-là.
Vos prochains projets, c'est quoi? Alors, il y a deux sortes de projets. Il y a les projets que vous allez tourner, des choses que vous avez déjà tournées et qui vont sortir. J'allais vous demander tout à l'heure, vous parliez des formats courts en télévision que vous préférez au cinéma, on passe son temps à attendre. Il y a une sorte de mi-chemin entre les deux, sont les séries. Ouais. Ça vous intéresse, les séries?
Bien sûr. J'attends une série. J'attends d'avoir un rôle dans une série forte. Là, j'ai fait un tournage avec Vincent Cassel, Eva Green. C'est un tournage anglais. Ça, c'est Stephen Hopkins qui l'a réalisé.
C'est une série ou
c'est
un one shot?
C'est une série sur Apple qui passera bientôt. Là, on va faire les synchros au mois de juin, donc à mon avis, au mois d'octobre. Tiens, voilà un imitateur.
Ouais. Marc-Antoine Lebray qui est en ce studio.
Plein de talent.
Voilà, le aussi fait des synchros. Ça raconte quoi, cette série?
Ah, c'est une série sur la DGSE. Enfin, c'est une série assez complexe à expliquer. Il ne faut pas expliquer. C'est pas commencer à essayer d'expliquer.
On ne va pas l'expliquer. Et le cinéma? Vous avez des projets? Vous avez des tournages qui sont déjà réalisés?
Non, j'ai un unitaire qui va sortir que Sylvie Testu a réalisé. Mm-hmm. Et pour le moment, je vais me consacrer à cette magnifique nouvelle aventure avec mon fils, parce qu'on va prendre la route longtemps, là, pendant 4 mois. Donc après, je verrai.
Ah oui, parce qu'il y aura d'autres dates en France, il n'y aura pas seulement les festivals.
Oui, oui. Et après, les dates dans les villes, ça démarre au mois de septembre.
D'accord. Ouais. Vous dites, je reviens, j'ai un mot de cinéma encore, vous dites, j'ai la chance d'être populaire, mais le cinéma parisien ne m'a jamais apprécié. Vous aimeriez tourner avec qui? Vous auriez aimé tourner avec qui?
Avec tous les meilleurs. Donc ceux qui savent, moi j'aurais adoré travailler avec
Chabrol.
Toute façon, Chabrol et Sautès, ça aurait été magique pour moi, parce que j'adore leur boulot. J'adorais ces gens-là. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des Granier de Fer, des Bertrand Tavernier, donc des Alain Corneau, Toledano, Nakache Toledano, Audiard, j'aurais aimé travailler avec des gens comme ça, mais bon, on est dans le parisianisme, là déjà, on est dans une autre histoire.
Juste un mot, vous parlez au passé, j'aurais aimé, c'est pas fini?
C'est fini d'attendre après ces gens-là qui ne se sont pas proposés, donc je vais pas m'amuser à attendre des gens qui n'en ont rien à foutre, j'ai pas le temps.
On va pas attendre, il est 10h54, c'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebray. Il est dans ce studio, vous l'avez dit, Gérard Lanvin. Tous les matins, il y a des stars qui viennent exprès pour notre invité. Donc pour vous, ce matin, vous avez tourné dans 10%. Alors évidemment, il était obligé d'être là ce matin. Le producteur Dominique Besnéard. Bonjour Dominique.
Ah bonjour. Ah bah Gérard, j'adore parce que toi, t'es... Enfin, tu dis ce que tu penses. Hein. Comme François Cluzet, quoique le Cluzet, j'ai croisé l'investiture de Macron, c'est comme voir Che Guevara, mais à Disneyland. Hein. Ah, il avait mis le costume et avait oublié le service 3 pièces à la maison. Oh, les fielleuses, la Doumé. Bon, je suis pas venu les mains vides, j'ai un scénario pour toi, Gérard, mais c'est pas facile de te proposer des projets parce qu'avec tous les acteurs que tu peux pas piffrer, il reste toi et Patrick Devers. Et mon patoche, il répond plus à mes appels. Allez, bille.
Salut, c'est Raymond, Raymond Domenech.
Bonjour Raymond.
Non, c'était juste pour dire à Monsieur Lanvin que j'ai vu la bande-annonce de J'adore ce que vous faites et ça a l'air vraiment super. Pas le film, non, d'avoir un fan. Déjà, avoir quelqu'un qui vous parle, ça doit être une sacrée expérience, mais avoir un fan, j'arrive même pas à imaginer. Ah bah, je peux vous dire que si c'est moi qui avais décroché votre rôle, Gérard, le film n'aurait pas été classé en comédie, mais en science-fiction. Bon, par contre, je m'identifie bien à Artus, le fan dans le film. Moi-même, je suis fan de Julia et Mélanie. Je suis pas encombrant, Julia, hein, j'ai fait pipi sur votre paillasson. Mélanie, j'ai dormi dans vos draps. J'ai essayé vos escarpins et vous avez un tanga très confortable. Je peux rester pour l'émission ?
Bien sûr.
Merci, c'est gentil. Elle
dit bien sûr en plus.
Pour une fois qu'on accepte.
Et enfin, Jean-Claude Van Damme est passé vous voir ce matin pour vous demander un petit quelque chose, Gérard.
Ok, bonjour, au revoir, enchanté, on se parle plus tard. Je suis venu voir Gérard parce que je suis un mec ouvert, surtout au niveau des narines. Il y a un oiseau. Gérard, je voudrais qu'on fasse la suite des frères Pétard 36 ans après. Ok, on peut devenir les papas de la coca, les potes des champodes, les frérots de l'héros ou même les papis de l'extasie. Wow, il y a une baleine à bosse. Il faut appeler SOS baleine battue. La drogue, c'est mal.
Mélanie, c'est encore Raymond.
Oui.
Juste pour te dire que je porte toujours ton tanga.
Oh.
Donc,
non.
N'hésite pas à le laver à 60 degrés. Hein. On peut aller à la laverie ensemble. Tu veux m'épouser ?
Non.
Merci Marc-Antoine Lebray. Merci Gérard Lanvin d'avoir été avec nous. J'adore ce que vous faites. Ça sort demain, film de Philippe Guillard avec Artus, fan extrêmement encombrant. Merci encore. Et puis la tournée, l'Olympia, la musique, les duos. Merci à tous. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On sera avec la journaliste et présentatrice Maya Loquet qui anime la plus grande dictée de France dans un nouveau programme sur France 3. Elle sera avec nous. Et puis le romancier, auteur dramatique, scénariste Guy Van Kovelaert, prix Goncourt en 1994. Il arrive avec son nouveau roman, Une vraie mère ou presque, roman totalement déjanté. Juste après le flash, Julia Vignali, Mélanie Gomez, déjà saluée par Raymond Domenech. Bien fait pour vous. Ouais. Le programme toujours du jour. Pardon, c'est pas un lavage à 60.
Non, c'est pas un lavage à 60. On va parler cinéma, puisque vous le savez, le 75e Festival de Cannes, c'est dès ce soir. Et ben, on va essayer de faire de notre vie un film. Essayer de réussir le film de notre vie. Est-ce qu'on pourrait avoir l'Oscar de la meilleure vie ? En tout cas, tout ça, c'est du développement personnel.
L'Oscar du meilleur râteau.
On va parler de ça.
Ouais, et puis dans la séquence tendance, il y a peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser, Raymond. On va parler des nouveautés du côté des sextoys au masculin. Ça peut être utile.
Moi, je prends tout, moi.
Voilà. Il y aura de la gastronomie également, le pouvoir des épices dans l'émission. Ça va vous intéresser
bon
également.
Bon anniversaire à Alice.
Oui.
Ah, c'était hier. Bon, c'était vraiment joli.
Merci beaucoup. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Merci encore, Gérard Lanvin. À demain, 9h.